actuellement.
Quels sont ces volets?
Il y a le volet psychologique, parce que vous savez que même dans le contexte des antirétroviraux, l'annonce de la séropositivité au VIH est un choc émotionnel qui va avoir des conséquences sur l'équilibre, l'homéostasie psychique de l'individu. Une dépression réactionnelle par le déni de la maladie chez certains, par des comportements de vengeance, c'est-à-dire il peut y aussi avoir des comportements, des tendances hypochondriaques, c'est-à-dire le contrôle excessif et répétitif du corps à la recherche fantasmatique des signes extérieurs du sida. Il peut y avoir l'angoisse qui est la caractéristique, hein, l'une d'entité nosologique la mieux partagée chez les personnes vivant avec le VIH, ce qu'on peut appeler les troubles anxiété précises. Ça exige que la personne soit accompagnée par un spécialiste de santé mentale et nous avons pensé que ce volet-là pouvait être mis en exergue et le Congo est parmi les pays africains qui est très avancé en matière d'accompagnement psychologique des personnes vivant avec le VIH.
Oui, le volet psychosocial est très important. Quels sont les autres volets puisque vous avez parlé de trois?
En dehors de ce volet, nous avons également ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Vous savez que dans le contexte de l'infection à VIH, même avec les antirétroviraux, c'est des traitements au long cours où le patient est obligé d'observer les prescriptions du médecin en matière d'observance thérapeutique, de prise de traitement. Et cela parfois entraîne des lassitudes de l'individu de prendre le médicament. Et la confrontation avec le médicament au quotidien peut réactiver la souffrance. Et ce qui fait que dans ce domaine aussi, il faut accompagner la personne vivant avec le VIH. Et le troisième volet, c'est le volet social. Vous savez que l'infection à VIH entraîne parfois des comportements de stigmatisation, des rejets de patients, des difficultés d'accès à l'emploi. Et parfois, les patients se trouvent en situation de détresse sociale, ce qui fait que notre association apporte aussi ce qu'on appelle de l'assistance sociale.
Comment se fait concrètement cette assistance sociale?
Par exemple, avec l'appui de l'ONG française SIDAction, nous favorisons l'accès gratuit aux examens biologiques et aux médicaments pour le traitement des infections opportunistes aux personnes vivant avec le VIH qui sont vulnérables économiquement, particulièrement les enfants et les adolescents. Mais vous savez aussi que dans ce contexte, nous avons ce qu'on appelle des adolescents chefs de famille, c'est-à-dire des enfants qui perdent leurs parents et qui parfois, dans des situations difficiles, sont rejetés par la famille et qui sont obligés de se prendre en charge. Et donc la réinsertion sociale de ces enfants, particulièrement l'aide à l'accès à l'emploi ou alors l'apprentissage des métiers, se trouve être au cœur de notre action. Mais pour terminer, je dirais également que dans le cadre de la décentralisation de nos activités sur le site de Dolisie, nous faisons un projet de dépistage et d'accompagnement psychologique post-dépistage des femmes séropositives enceintes ou allaitantes. Et c'est avec l'appui d'une ONG française encore, Solidarité Sida, qui nous aide à faire en sorte que les femmes dépistées séropositives aient accès au traitement antirétroviral qui est donné gratuitement par le gouvernement congolais et choisissent le mode d'allaitement, qu'il y ait une démarche de counseling pour le mode d'allaitement et réduire les risques de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et lorsque la femme choisit le substitut du lait maternel comme mode de nutrition du nouveau-né, et nous apportons aux plus vulnérables l'appui à l'accès au lait maternel et peut-être aussi le kit d'accouchement pour les femmes qui sont extrêmement pauvres. Voilà en ce qui concerne le volet accompagnement psychologique et social des personnes vivant avec le VIH, comment se structure actuellement l'action de Serment Universel.
Quelle pourrait être la conséquence si le malade ne recevait pas cet appui psychosocial?
Si une personne vivant avec le VIH se trouve en situation de souffrance psychique, la conséquence est qu'il ne peut pas prendre régulièrement son traitement. Lorsqu'on présente certains troubles anxieux, par exemple la dépression, quelqu'un qui est déprimé présente une douleur morale et peut-être avec des idées suicidaires. Et donc, la prise de traitement, vous savez que le projet de soins n'a de sens que lorsqu'il s'articule ou s'imbrique dans un projet de vie. Et lorsqu'on n'a plus de perspective pour la vie, le projet de soins devient dérisoire. Et donc, il faut accompagner ces personnes pour essayer de potentialiser la prise du traitement pour que les personnes réinvestissent l'estime de soi et peut-être engagent des projets de vie, parce qu'on peut vivre avec le VIH à l'heure actuelle au regard de l'évolution des traitements antirétroviraux. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect aussi, il faut faire en sorte que la personne vivant avec le VIH devienne actrice elle-même de la protection, de la lutte contre le sida, faire en sorte que de la souffrance psychique, on passe à la sublimation pour que l'individu développe des ressources, une forme de résilience, pour qu'elle soit utile à la société, pour qu'elle ne se surinfecte pas et qu'elle protège les rapports sexuels si possible et qu'elle prenne correctement son traitement. Et lorsque vous savez que dans le contexte actuel, la prise correcte du traitement devient une mesure de prévention, puisqu'au plan international, toutes les études montrent que lorsque la personne a une charge virale indétectable, le risque de transmission du VIH lors des rapports sexuels non protégés est moindre. Donc, bien prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, les accompagner, c'est aussi assurer la prévention pour le reste de la population qui n'est pas infectée par le VIH.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Selon les explications que vous avez données, il y a beaucoup de personnes qui interviennent donc dans cette chaîne d'appui psychosocial que vous apportez aux personnes malades. Est-ce qu'on peut connaître quelles sont ces personnes qui interviennent dans la chaîne ?
Dans la chaîne, nous avons déjà au niveau de Serment Universel, nous avons des psychologues, des cliniciens qui travaillent pour accompagner ces patients. Nous avons également ce qu'on appelle les acteurs associatifs, qu'on appelle des relais communautaires, hein. Nous avons des assistantes sociales, mais aussi des personnes vivant avec le VIH elles-mêmes, qui ont fait le parcours avec la maladie et qui ont développé des compétences, qui ont subi des formations qu'on appelle des accompagnateurs psychosociaux. Et donc parfois le discours du patient qui a vécu des effets secondaires du traitement, par exemple, ou qui a surmonté l'épreuve de l'annonce de la séropositivité, peut partager son expérience avec une personne qui est en difficulté par rapport à ces différents aspects de la maladie. Et donc, des personnes vivant avec le VIH qui ont fait un véritable parcours, qui ont réussi à s'adapter à la vie avec le VIH et qui sont engagées dans l'accompagnement des autres, travaillent également avec nous, même si de temps en temps, nous n'oublions pas de dire que le réseau national des personnes vivant avec le VIH au Congo qui fait ce travail d'accompagnement dans le pays aussi. Donc évidemment, dans le cadre de l'association, nous avons aussi des jeunes. Nous sommes créés en 1998, nous avons fêté nos 20 ans en 2018, ce qui fait que bientôt 23 ans d'existence, il y a des enfants qui sont nés avec le VIH et qui ont été pris en charge par l'association, en coordination avec les médecins des hôpitaux publics, parce que à Brazzaville, par exemple, nous faisons le travail d'accompagnement psychologique qui se fait en synergie avec les médecins des hôpitaux publics. Ce qui fait que nous avons parfois des réunions de coordination entre ce qui se passe à l'hôpital et ce que nous faisons au niveau de l'association dans le cadre du continuum des soins des patients, particulièrement des enfants devenus adolescents, et nous avons donc des jeunes adultes qui travaillent aussi avec nous pour accompagner les jeunes adolescents à qui on annonce la séropositivité au VIH.
Oui, ça ne doit pas être facile pour les enfants nés avec le VIH d'apprendre qu'ils sont porteurs du virus.
Et c'est une question particulière et sensible. Quand l'enfant est né d'une mère séropositive et l'enfant n'a pas été protégé pendant la grossesse et l'accouchement, et malheureusement le test est positif à la naissance, on fait en sorte que cet enfant-là vive et grandisse avec le VIH. Mais quand il arrive, avant l'adolescence, il y a un processus d'annonce de la séropositivité qui doit être déclenché. Et là, parfois, nous avons besoin d'utiliser les premiers, donc ces jeunes vivant avec le VIH que nous appelons les survivants du VIH, qui sont devenus des jeunes adultes et qui partagent leur expérience et leur parcours avec les adolescents à qui on annonce la séropositivité.
La qualité ou les étapes de la prise en charge psychosociale diffèrent-elles suivant l'âge, le sexe, le niveau d'éducation ou de scolarité ou la situation sociale du patient?
Absolument, parce que l'approche qu'on va utiliser avec un enfant ou un adolescent peut-être ne sera pas la même approche avec les adultes. Les psychologues savent ce que j'appellerais la triangulation dans la relation avec l'enfant ou l'adolescent. Et là, en consultation, le parent biologique ou le substitut du parent qui a la charge de l'enfant est associé dans cette démarche de soins, ce qui n'est pas le cas pour l'adulte. L'adulte, on le reçoit individuellement et les approches thérapeutiques et même les outils qu'on utilise vont être adaptés en fonction du profil du patient.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
En parlant des tests du VIH, nous avons un auditeur, Abel Luca, qui se demande si ces tests du VIH sont vraiment fiables, puisque, dit-il, nous voyons pas mal des gens qui ont des symptômes du virus, mais arrivent au laboratoire, c'est négatif. Comment expliquer cela?
On va faire attention. Le diagnostic de l'infection par le VIH ne se fait pas sur le plan clinique. Et les symptômes du sida ne se voient pas. Pour poser un diagnostic, quelqu'un peut souffrir d'une autre pathologie dont la symptomatologie peut être proche de celle du sida et ne pas être contaminé. Ça conduit parfois à des comportements de stigmatisation. Le diagnostic du VIH est biologique. Tant qu'on n'a pas fait le test, on ne peut pas accuser quelqu'un d'être infecté par le VIH. Mais pour en revenir au fond de la question, c'est que c'est des cas rarissimes. C'est possible. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais on peut dire que si les réactifs ont été mal conservés, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'un résultat qui n'est pas bon. C'est pour ça que c'est toujours bien de refaire le test lorsqu'on a des premiers résultats. C'est toujours bien pour confirmer. La plupart du temps, il est fiable parce qu'un test a des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, un test de dépistage, c'est la fiabilité. Et donc, ça étonnerait que quelqu'un soit infecté par le VIH et que son test soit négatif alors qu'il devait être positif. Ce qui est évident, c'est que dans la majorité des cas, on fait ce qu'on appelle le diagnostic indirect, c'est-à-dire on recherche les anticorps anti-VIH dans le sérum de la personne qui a été prélevée. Mais la plupart du temps, si la personne a été en contact avec le virus il y a plus de 3 mois, le test doit être positif. Donc c'est des cas rarissimes.
Vous venez de parler de stigmatisation. Voilà ce qu'une patiente a confié. Il y a quelque temps, elle s'est confiée à une amie qu'elle était séropositive, mais son amie l'a répété à son entourage, au voisinage et même à son employeur. Et donc maintenant, les gens l'évitent et l'ignorent dans son quartier. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation?
On comprend que c'est difficile. La divulgation du statut sérologique d'une personne vivant avec le VIH à des tierces personnes, surtout lorsque la personne s'est confiée à vous, c'est que la personne vous fait confiance. C'est une sorte de trahison qui peut provoquer une souffrance supplémentaire chez cette personne qui est maintenant victime de stigmatisation et de rejet. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est que dans la démarche générale, il faut sensibiliser l'ensemble de la population que les modes de transmission du VIH sont connus. Et donc, le VIH, ce n'est pas parce que vous êtes à côté d'une personne que vous côtoyez un ami ou un parent que vous allez être infecté. Non, des comportements de discrimination ne sont pas bons et il faut que toute la population lutte contre la discrimination et la stigmatisation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH.
En fait, c'est un combat qui concerne tout le monde.
C'est ça, il faut que tout le monde s'engage dans la lutte contre la discrimination parce que ça annule les efforts que les gouvernements engagent dans l'accompagnement, dans la prise en charge, dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Parce que lorsque la personne est rejetée, stigmatisée, ça va créer une souffrance psychique. Et cette souffrance psychique va avoir des conséquences sur l'observance thérapeutique. Et la personne peut sombrer dans une dépression et ne plus prendre correctement son médicament. Je profite de votre micro pour lancer un appel à toutes les populations, à tout le monde, qu'il n'est pas bon de discriminer une personne parce qu'elle souffre de l'infection par le VIH. Il faut accompagner ces personnes, notre affection, notre solidarité, faisant preuve d'humanisme et de solidarité vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH.
Exactement. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH?
Quand on a fait un travail chez les personnes vivant avec le VIH, qui ont accepté de s'adapter à cette nouvelle réalité et essaient de mobiliser des ressources pour vivre correctement, lorsqu'il y a des ruptures dans les traitements antirétroviraux, cela crée l'angoisse de mort. Et puisque tout le monde sait que toute rupture de traitement peut entraîner des résistances chez la personne vivant avec le VIH, c'est l'une des questions pour lesquelles tout le monde est souvent préoccupé dans le contexte africain.
Que doit être alors la solution face à ce problème si majeur?
Les gouvernants devaient faire en sorte que les médicaments antirétroviraux soient disponibles parce que les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement des traitements créent une véritable souffrance chez les personnes vivant avec le VIH. Et souvent, on est obligé de faire ce travail supplémentaire, ce qui est difficile parce que vous vous trouvez en première ligne avec les patients. Deuxièmement, c'est que parfois en Afrique, souvent ces personnes, on parlait de la discrimination ici, ont des difficultés d'accès aux services sociaux de base et arrive à l'association pour poser tous les problèmes. Vous savez que dans le contexte africain, les associations ne sont pas financées par les pouvoirs publics. Donc il faut mobiliser des partenaires qui peuvent apporter des appuis pour ces patients. Et souvent, les ressources humaines
qu'il faut trouver et payer.
Si vous voulez avoir des ressources humaines de qualité, alors il faut les payer. Les gens ne peuvent pas toujours travailler bénévolement et parfois on n'a pas de ressources. Et parfois on peut se priver des ressources humaines de qualité, des compétences disponibles simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de les rémunérer. Et c'est pour ça qu'il est important que chaque cadre, que ce soit médecin, assistante sociale, psychologue, agents communautaires, parfois d'accepter de s'engager bénévolement parce que les associations n'ont toujours pas les ressources pour pouvoir payer votre expertise. Et la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que la mobilisation des ressources dans le contexte Covid, ça devient difficile.
Difficile à cause, entre autres, du confinement, mais aussi parce que le coronavirus attire toute l'attention maintenant.
Tout le monde est focalisé sur le coronavirus. Mais on doit savoir que le sida est toujours là. Et avec les confinements, etc., etc., il y a la recherche des loisirs et on peut s'attendre peut-être, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, peut-être à une explosion de l'épidémie parce qu'en ce moment-là, la consommation du sexe peut devenir comme un loisir pour tenter de se soustraire du stress généré par la situation du coronavirus. Et donc, du coup, il faut faire en sorte que les sensibilisations sur l'infection à VIH se poursuivent aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde et faire en sorte qu'on continue à rendre disponibles les services d'accompagnement, prise en charge holistique des personnes vivant avec le VIH. Même à l'ère du coronavirus COVID-19, le sida est toujours là. Les personnes vivant avec le VIH ont besoin que les services soient disponibles.
Mais avec le confinement entraîné par le coronavirus, c'est pas toujours facile de faire ce travail de prise en charge ou de sensibilisation.
Mais le problème, c'est qu'on a l'avantage actuellement d'avoir aussi des outils. Par exemple, Fermoy Universel dispose d'une ligne d'écoute. Pour ceux qui sont au Congo, c'est le 06 950 50 50, qu'on peut appeler gratuitement pour avoir des informations aussi bien sur l'infection à VIH que sur le coronavirus. Mais actuellement, avec la fin du confinement au Congo, les populations ou les bénéficiaires de nos services sont revenus. Même à l'époque du confinement, on avait gardé, parce que c'est l'occasion de remercier le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le sida, qui nous avait donné les laissez-passer qui nous ont permis d'aller visiter les patients, puisqu'on a un service d'accès gratuit aux médicaments pour les infections opportunistes en faveur des enfants et des adolescents vivant avec le VIH, de faire en sorte que cette personne ait toujours accès aux médicaments lorsqu'une ordonnance médicale est prise par le médecin. Et donc nous remercions le gouvernement. Ce travail, nous l'avons fait. C'est bien que nous revenons pratiquement à la normale malgré le couvre-feu. Dans le respect des mesures barrières, nous continuons à faire ce travail.
Est-ce que vous avez la conviction que vos activités portent du fruit?
Oui, au-delà de la conviction, nous avons des résultats, puisqu'actuellement, nous avons des jeunes, des enfants qui sont nés avec le VIH, qui sont aujourd'hui titulaires de master, titulaires de licence, qui sont à l'université, ceux qui étaient sortis du circuit scolaire et qui ont été placés dans les ateliers d'apprentissage des métiers et qui aujourd'hui sont devenus qui chauffeurs de bus, qui mécaniciens, qui coiffeuses. Et ça, c'est notre satisfaction. Donc, on peut dire que ça porte les fruits. J'estime que ce travail doit se poursuivre et que plusieurs associations à caractère sanitaire devaient, si possible, s'engager dans ce domaine-là pour que nous soyons un peu plus nombreux à accompagner les personnes vivant avec le VIH. Il ne faut jamais penser que si une personne est infectée par le VIH, c'est que cette personne a eu une vie sexuelle désordonnée. C'est faux. Nous avons plusieurs modes de transmission. Et que diront-on des enfants, des bébés qui sont nés? Ils ont quelle responsabilité? Donc la famille doit vivre avec une personne vivant avec le VIH de la même manière qu'on vit avec un diabétique, un hypertendu, donc avec d'autres personnes souffrant de pathologies chroniques. C'est la démarche qu'on doit avoir.
Et c'est le patient qui s'en portera mieux?
Plus on est attentif, attentionné, et on entoure le patient d'affection et d'empathie, mieux ce patient va s'adapter et va avoir une meilleure qualité de vie avec le VIH. Donc c'est un appel que je lance à tout le monde, ne rejetons pas les personnes vivant avec le VIH, et parce que ces personnes, lorsqu'elles s'adaptent, elles continuent à rester des agents économiques, des acteurs de développement. Former un ingénieur, ça fait peut-être 18 ans, 20 ans de formation de l'école primaire jusqu'à l'université. Et donc, lorsqu'on a un ingénieur, s'il est infecté par le VIH, on doit l'accompagner pour qu'il continue à rester utile pour la société, rester un acteur de développement, être utile à sa famille et à l'ensemble de la société.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous avez évoqué toute une série de difficultés auxquelles vous êtes parfois confrontés, surtout en ce qui concerne les ARV ou même les questions financières. Alors, quel est votre rapport envers les autorités publiques et même les personnes de bonne volonté et quel pourrait être le rapport pour vous aider à surmonter ces difficultés-là?
Au niveau des pouvoirs publics, c'est déjà bien, on a la caution institutionnelle, le Conseil national de lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre le sida. Nous travaillons de concert avec ces structures publiques dans le cadre du partenariat entre secteur public et secteur associatif. C'est déjà bien de continuer à faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH aient accès aux médicaments. Il n'y a pas de prise en charge de qualité si dans le dispositif, il manque le médicament. Le médicament, c'est le point central de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il faut que les autorités publiques du Congo et des autres pays africains travaillent pour que le médicament soit disponible. Deuxièmement, vous savez que pour potentialiser le traitement antirétroviral, il faut accompagner les patients. Dans le contexte africain, parfois on ne comprend pas l'intérêt de la prise en charge psychologique et parfois on pense que c'est quelque chose d'inutile ou alors ça concerne les blancs, l'Africain doit gérer sa souffrance. Non. L'être humain est le même partout dans le monde. Et tous ceux qui travaillent dans le soutien au psychologique aux patients devaient bénéficier de l'attention des gouvernants et des personnes de bonne volonté. Ici, je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires, la Fondation de France, Sud-Action, Solidarité Sida, mais la Fondation MTN aussi au Congo qui nous a appuyés dans la mise en place du numéro vert concernant les informations sur le sida, le 06 950 50 50 pour ceux qui sont au Congo, faudra-t-il le rappeler, mais aussi faire en sorte que d'autres structures et d'autres personnes, dépositaires des moyens, au lieu de mettre ces moyens-là dans des activités inutiles, comme l'organisation des fêtes, etc., on peut faire preuve d'altruisme.
Quel genre d'action altruiste les gens peuvent-ils poser?
En parrainant, par exemple, des enfants vivant avec le VIH, mais qui ont des difficultés d'accès à la scolarité. Et on peut parrainer un enfant, si on a un peu de moyens, faire comme si on était son tuteur, et donner un peu d'argent pour que cet enfant-là ait accès à la scolarité et accès à la nourriture.
Donc, merci beaucoup, nous vous remercions.
C'est nous qui vous remercions.
Nous sommes également arrivés au terme de cette session hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Elle était consacrée à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Notre invité, le docteur Julien Makaya, a expliqué l'importance de ce soutien, mais aussi ce que tout le monde peut et doit faire pour combattre les préjugés et la stigmatisation dont sont souvent victimes les patients atteints du VIH. Le docteur Julien Makaya est psychologue et directeur de l'association Serment Universel à Brazzaville, en République du Congo. Cette émission santé a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph, à la présentation Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.